Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h39.
Plus beaucoup de mines de cuivre, pardon.
Ça discute déjà.
Comme vous voyez, on a des patrons au bord de la crise de nerfs, notamment comme Jean-Philippe Cartier qui travaille trop, Emmanuel Le Chypre, et François-Mickey Marty. Emmanuel Le Chypre, on va commencer par ce chiffre. Effectivement, les patrons français travaillent 25% plus que les autres. Emmanuel Le Chypre, on découvre le patronat français workaholic.
Enfin, workaholic, ça veut dire que quand vous êtes workaholic, vous êtes accro au travail et que c'est une espèce de démarche volontaire.
Vous voyez, bien sûr.
Etc. Les patrons français, ils sont aussi obligés de travailler plus que les autres. Bon, il y a plein de raisons. Alors, il y a des effets de structure aussi hein, qui sont très importants. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup plus de petites entreprises en France qu'à l'étranger. Quand vous avez, par exemple, deux fois plus de TI en Italie ou trois fois plus de TI en Allemagne, plus vous êtes dans une petite structure, plus la structure est dépendante, finalement, de l'activité du patron qui fait beaucoup de choses tout seul, qui a pas passé les effets de seuil qui permettent d'avoir des équipes de taille importante pour pouvoir se permettre de moins bosser. Il y a effectivement des effets comme, le patron français télétravaille moins. Oui, il vit dans un océan de complexité administrative, réglementaire, sans doute plus qu'ailleurs, peut-être pas de façon caricaturale, beaucoup, beaucoup plus qu'ailleurs, mais quand même nettement plus qu'ailleurs. Et puis il y a un problème aussi de qualification et de niveau des patrons français qui est globalement plus faible que celui des patrons...
Il y a un petit côté dans l'étude aussi, il ne sait pas s'organiser, il ne sait pas déléguer. Alors, je ne sais pas si c'est
le côté... Il ne sait pas s'organiser, c'est ce que je vous dis sur un peu le niveau de compétence. Regardez, par exemple, le retard technologique qu'ont beaucoup d'entreprises, de petites entreprises en France, c'est lié à ça, c'est lié au niveau de qualification souvent du patron.
Jean-Philippe Cartier, comment ça va?
Ça va et vous?
Est-ce que vous vous retrouvez dans cette étude?
On en parlait avant, mais c'est vrai que dans un climat social où on parle que de travailler moins, enfin de s'opposer à la réforme des retraites, en tous les cas, c'est bien de voir que les Français sont aussi des gens qui travaillent. Les entrepreneurs français travaillent beaucoup. J'ai pu avoir l'occasion de le constater lors de plein de déplacements à l'étranger. C'est vrai que souvent, on nous dit, vous continuez plus tard, vous y retournez le samedi, vous êtes encore en ligne à telle heure. Oui, le patron français travaille, aime travailler. Et puis, ça permet de... Cette analyse, je ne sais pas si on est moins organisé, je ne crois pas. Je pense qu'on a des superbes PME en France, mais je pense surtout qu'on est des gens très impliqués. Je suis heureux d'entendre...
Mais la question, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est possible dans la durée de travailler autant? Bah oui, il faut tenir sur la durée, c'est ça qui compte.
Non, mais je pense que je ne sais pas si on est workaholic. Comment on le dit bien, mais je ne voudrais pas me tromper. Mais non, je pense que l'entrepreneur français, pour en connaître pas mal et en être un, est quelqu'un d'impliqué dans ce qu'il fait et qui considère que sa mission continue un peu plus tard que peut-être que la vie privée. Peut-être qu'on, d'ailleurs, c'est toute la différence avec les modèles du Nord et autres. Oui, on travaille beaucoup et on le constate, mais on fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on est capable de faire pas mal de choses en même temps.
Alors c'est intéressant parce que ça fait une transition toute trouvée avec vous, François-Mickey Marty, avec ce dernier baromètre des décideurs via Voice pour HEC, Le Figaro et BFM Business, où on voit que les décideurs, les dirigeants, les entrepreneurs, les cadres n'ont pas forcément du coup envie de travailler plus longtemps et de partir à la retraite plus tard, parce que comme la majorité de la population, ils ne sont pas fans de la réforme des retraites. Hein.
Exactement. Alors, c'est l'un des éléments très frappants de cette étude. Hein. En effet, un souhait très majoritaire de s'opposer au report de l'âge légal de départ à la retraite, mais, et ça rejoint notre conversation là, on a 85% des décideurs en entreprise qui disent mais la valeur travail est quelque chose de fondamental. Alors ça peut paraître ambivalent, on dit à la fois on veut s'arrêter puis en même temps on veut travailler. En réalité c'est pas si ambivalent que ça, c'est pas si contradictoire que ça. Ça veut dire que quand on est au travail, on veut travailler et se donner à fond, c'est le point que l'on vient d'évoquer, mais il y a un moment où ça doit pouvoir aussi s'arrêter. Alors ça veut dire bien sûr au cours des âges de la vie et donc pour le départ à la retraite, mais ça veut dire aussi avoir peut-être des moments où on respecte la vie privée malgré tout dans la semaine. Donc ça veut dire la valeur travail, contrairement à ce qu'on dit souvent, elle est importante en France, on y croit, on a envie de la déployer, mais il faut aussi préserver des moments où on est en mesure de décrocher, de respecter une partie de sa vie privée. Il y a un effet post-Covid là-dedans.
Mais sachant que le Covid a été un gros accélérateur,
voilà.
Ça on l'oublie, mais un énorme accélérateur sur la partie privée, sur la partie jouer une journée par semaine, le télétravail, ça a été, je crois, un déclencheur fort de ce sentiment.
Mais est-ce que ça pourrait être une épine dans le pied du gouvernement de voir que les cadres dirigeants, les cadres sup, eux-mêmes lâchent un peu sur la question de la réforme des retraites?
Alors, ça rejoint les éléments d'actualité dont on parle là. Enfin, concrètement, hein, les deux tiers des dirigeants d'entreprise sont opposés à cette réforme des retraites telle qu'elle est formulée là.
Et pour quelles raisons?
Mais exactement pour ces raisons-là. C'est-à-dire, au fond, en réalité, les deux tiers aussi souhaiteraient une autre réforme des retraites. Alors, quelle serait cette autre réforme des retraites ?
Par points.
Plus à l'écart, plus par points.
Mais on voudrait tellement qu'on retourne à cette réforme par points.
Ou avec deux autres idées, l'emploi des seniors, et on vient d'entendre une hypothèse, alors j'ai entendu le mot de coercition, qui est toujours un peu effrayant pour des dirigeants d'entreprise.
Sur l'index senior des entreprises.
L'index senior...
Ça, c'est Véran qui dit, pourquoi pas ?
Voilà, l'index senior était probablement en deçà des aspirations. On sait qu'on a un taux d'emploi des seniors qui est extrêmement faible, à 56%, enfin plus faible que dans la moyenne des pays européens, à 56%. Mais il y a quelque chose à faire, parce que vous voyez bien, et des décideurs et des Français qui disent, ah oui, mais là où il y a des poches de travail supplémentaires, il faudrait le promouvoir. Donc l'index est probablement insuffisant. Le terme de coercition est un peu effrayant, mais il y a peut-être entre les deux l'idée d'incitation qui pourrait être une voie médiane, qui pourrait peut-être être satisfaisante pour beaucoup.
Alors en matière d'incitation, on a eu une super idée ce matin sur ce plateau. C'était le vice-président du Métis, Philippe Dornano, patron de Sisley, qui dit que le Métis suggère que si vous êtes senior, que vous avez eu tous vos trimestres, que vous partirez à la retraite, et si vous continuez à travailler, eh ben vous n'avez plus de cotisation, ni patronale, ni salarié. C'est-à-dire qu'au lieu de partir à la retraite et de gagner 50 ou 60% de votre salaire, vous gagnez 110, 115% de votre salaire. C'est une bonne idée.
Ça vous parle,
c'est tout l'enjeu de la réforme. Non, mais de ce qui n'est pas fait, de ce qu'il faudrait
c'est
faire.
Pas fait, ça,
et il a 100% raison, on dit ça tous les jours.
C'est pas du tout ce que propose le gouvernement.
Ben, je suis complètement, pour autant, aligné avec le patron de Sisley. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. J'en parlais, à quelqu'un quelques jours, qui me disait, je travaille à 71 ans, je veux continuer, mais entre ce que je coûte à l'entreprise, la partie d'impôt, plus le fait que je cotise encore, alors que je suis déjà à taux plein, je
cotise pour rien,
ça n'a strictement aucun sens. Donc c'est complètement ce qu'il faudrait faire pour accompagner les seniors qui ont envie, et il y en a encore beaucoup, de travailler, de faire quelque chose des 25 prochaines années, ce que je leur souhaite, qu'il leur reste encore à vivre.
Emmanuel, vous votez pour la proposition ?
Oui, non, bien sûr, c'est une bonne idée. Et ça montre d'ailleurs que finalement, ce qui aurait été prioritaire avant de faire la réforme des retraites, ça aurait été justement cet objectif de faire travailler davantage les seniors. Et parce que c'est là où, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on fait une réforme des retraites, mécaniquement, ça augmente effectivement le taux d'emploi des seniors. Mais on aurait pu aussi commencer par se dire, justement pour profiter à plein de cet effet d'entraînement de la réforme des retraites, c'était de dégripper finalement tous les mécanismes qui font qu'aujourd'hui le travail des seniors est faible. Donc oui, effectivement, le cumul emploi-retraite, parce que pendant des années, vous pouviez travailler plus, mais vous cotisiez à perte, en fait. Hein. Vous cotisiez dans le vide, puisque ça ne vous rapportait rien. Donc là, c'est quand même une belle incitation, effectivement.
C'est pour les autres, quoi.
Au travail.
Mais ça, c'est pas du cumul emploi-retraite. Hein. Il nous l'a bien dit, hein, le patron de Sisley. Il nous a dit, en fait, ça permettra aux gens de continuer à travailler, mais d'avoir un salaire plus élevé, mais ça coûterait moins cher à l'entreprise. C'est gagnant-gagnant, quand même. Hein. Ouais.
Et ça répond à la problématique du gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat.
Pourquoi on n'y a pas pensé avant ?
Jean-Philippe Cartier.
Posez-leur la question, mais la vraie question qui se pose, moi je vous dis...
Non mais parce qu'ils ont des... Il y a des idées beaucoup plus intelligentes sur la table.
Ah, celle des 30 jours.
Travailler 35h30.
Ah, ça c'est le modem ce week-end.
Vous trouvez ça idiot ?
Ah, je pense que si on faisait un championnat du monde...
Il serait numéro 1.
Les plus stupides,
elle
serait sur le podium.
Mais pourquoi ?
On dit bien qu'il faut augmenter le temps de travail, pourquoi pas celui de la semaine au lieu de celui globalement des retraités.
Parce que en fait, l'histoire, c'est que le modem s'est fait virer par la porte la semaine dernière avec son idée d'augmenter les cotisations légèrement pour les entreprises et qui revient par la fenêtre cette semaine avec une proposition qui revient à la même chose. C'est-à-dire que qui peut croire que travailler une demi-heure de plus aura un impact sur la productivité et sur la production, sur le niveau de production générale.
Ça rapporte 2 milliards.
Que dalle. Oui, parce que ça rapporte 2 milliards parce que du coup, les entreprises vont cotiser sur une demi-heure de plus. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est zéro activité, zéro chiffre d'affaires, zéro bénéfice en plus pour une hausse des cotisations.
Pas certain que celui qui l'a
plus,
dit.
Et en plus, je termine.
Autant faire une taxe.
Et en plus, je termine. Vous pénalisez quand même les gens qui font des heures sup, puisque le seuil de déclenchement des heures sup est retardé d'une demi-heure. Aujourd'hui, c'est 35 heures.
Juste une chose pour rebondir sur ce qu'on disait, c'est une aberration totale, mais tu l'as assez bien expliqué. Vous l'avez assez bien expliqué, Manuel. Pour autant, sur les seniors, ce qui est vraiment important de voir, moi, je m'en rends compte sur vraiment un nombre de participations très large, la demande de travail et de gens qui cherchent à travailler. Je vous dis, je prends juste un exemple et ça permet de faire une, peut-être pas une réalité, mais quand même un état du marché sur un compte LinkedIn. On a des centaines de demandes, que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit dans les métiers du digital, que ça soit dans des entreprises dans lesquelles on poste quelque chose et ça réagit des gens. Je suis pas nul, j'ai 65 ans, je suis formidable, j'ai 68 ans,
Et est-ce que vous les embauchez ?
Bien sûr qu'on en prend. on en prend. Mais comme je vous l'ai déjà exprimé à nombreuses reprises, il y a, à part faire le match, mais il y a un sujet du coût du travail du senior. Ouais. Point. Bah, ouais. Voilà. Donc en fait, il faut traiter ce point. Voilà. Si vous voulez régler le problème, il faut le traiter par cette porte.
Et pourquoi c'est idiot le 35h30, 36, 37, 38 pourquoi, vous pensez qu'il
Non. Ah. Mais non. C'est pas 35. Ce qui est idiot, c'est la proposition du 35,5.
Oui. Ah, mais 37, vous prenez.
Ah, mais bien sûr. Ah, évidemment. Voilà. 37,
c'est le 35,5, c'est de la politique. Voilà. Ouais. C'est absurde.
On a calculé sur un coin de table ce matin. Ouais. Hein. Ouais. Si on travaillait 37h30 ou 38h, pas de réforme.
Vous avez fait 35,
ça fait 10 milliards.
35, 3 quarts.
Mais... François-Mickey Marty, c'est vendable à l'opinion publique,
37h. Écoutez, c'est tellement probablement peu vendable dans le contexte actuel qu'on peut même se dire, avec un esprit modérément pervers ce lundi matin, qu'il y a peut-être cette proposition-là permet au fond d'être une forme de chiffon rouge qui permet de rendre la réforme actuelle des retraites extrêmement indolore et douce et de revenir à des choses beaucoup plus. Rappelons-nous, François Bayrou avait, dès avant même. Avait présenté le projet du corps, le rapport du corps, en disant attention, il faut faire des choses. Donc régulièrement, on voit dans la galaxie modem des idées sortir comme ça qui permettent au fond de revenir à cette raisonnable réforme des retraites.
Mais vous savez, sur le point des retraites, on se rend compte d'une chose, je l'avais déjà exprimé, mais il y a un problème d'explication. Les gens viennent savoir ce qu'ils vont.
Je
pense qu'ils le font d'une manière où, moi, les gens viennent nous voir. En final, je suis presque prêt à comprendre, mais combien je vais toucher en plus je crois que c'est pas très précis.
Le problème, c'est que, évidemment, tout ce que tout le monde voudrait savoir, c'est quand est-ce que je vais partir et je vais toucher combien. Mais là, c'est pas une affaire de pédagogie. Il faut monter un
simulateur.
Je pense que c'est pas complètement idiot. Si t'arrives à comprendre où tu vas et pourquoi tu vas, tu comprends plus vite.
Mais parce qu'on est resté au 20e siècle, sur tout l'aspect technologique.
Oui, mais enfin, au même moment, où t'as le COVID,
chacun recevrait une feuille en disant voilà, avec l'ancien système vous touchiez tant, et avec le nouveau
c'est exactement ce qu'il faudrait faire.
Quand on voit par exemple
ça,
le rapport
pas de la pédagogie,
qui est publié aujourd'hui,
c'est des maths.
Quand on voit le rapport d'impact qui est publié aujourd'hui, qui est associé au projet de loi, qui est en partie fait avec le travail de la CNAV.
Absolument.
Et moi je peux vous dire, pour être allé un peu voir les outils de modélisation que la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
c'est pas sur un coin de table.
C'est extraordinaire.
Ouais.
Et c'est extraordinaire.
Ça ressemble au baromètre de Demel Le Chypre.
Mais non. Oubliez là, c'est des outils qui sont vraiment d'une précision extraordinaire.
Ouais.
Et donc, y aurait moyen quand même certainement de faire mieux en termes de pédagogie.
Oui, peut-être juste un mot pour rebondir cette question à la fois du travail et des entreprises. Emmanuel Le Chypre disait tout à l'heure très justement, comme toujours, il y en a beaucoup de PME, de TPE en France. Bon, on a l'impression que en France, souvent, l'argent, la valeur créée tombe du ciel, une sorte de génération automatique et naturelle. Le fait qu'il y ait, on est en France, des dirigeants d'entreprises et souvent donc de TPE, PME qui travaillent beaucoup, avec les taux de prélèvement qu'on a, il y a une nécessité tout simplement de surinvestissement, je pense, par rapport à d'autres pays.
Exactement.
Tout simplement pour faire vivre sa boutique, très souvent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des entreprises qui génèrent par une sorte de...
Quand est-ce qu'on sortira le chiffre du nombre de patrons de petites boîtes qui ne se payent pas?
Exactement.
Qui ne se payent pas, qui n'ont pas les moyens de se payer.
C'est pour ça que l'idée de coercition dont on parle beaucoup sur les entreprises est très intéressante aussi. Ça présuppose qu'on est dans un monde idéal où les entreprises, par nature, génèrent de l'argent de manière facile et spontanée.
Parce qu'une idée stupide, qu'elle soit coercitive ou incitative ou facultative, ça reste une idée stupide, on est d'accord.
Ça reste une idée stupide.
Encore un mot quand même, parce qu'on a Jean-Philippe là ce matin, on a fait réagir évidemment Philippe Dornano à Bruno Le Maire qui vendredi nous disait le dividende salarié, il y aura un dividende salarié. Que les patrons le veuillent ou non, il y aura un dividende salarié. Et pour la première fois, Bruno Le Maire, que vous connaissez bien, le lié à la réforme des retraites, il dit on ne peut pas demander aux gens de travailler plus sans leur donner un peu plus, et le petit plus, ça sera le dividende salarié.
Non, mais je comprends l'idée. L'idée est saine de vouloir répartir plus. Et voilà. Après, pour les PME, il y en a beaucoup. La manière de gérer le dividende, elle est quand même assez simple. Donc,
c'est pour payer l'entrepreneur qui n'a pas de salaire.
Oui, mais même de ne pas en payer. Enfin, je veux dire, c'est une manière pour un grand groupe de comprendre, c'est publié, c'est audité. Après, je pense, moi, plus que ce que je trouvais remarquable, c'est tout ce qui permet d'imposer, en tous les cas, des formes de prêts. Nous, ce qu'on souhaite plus, de manière régulière, c'est de pouvoir donner plus à des moments précis, une prime, quelque chose qui permet d'être clairement donné à chaque fin de mois, à chaque fin d'année, à chaque fin de semestre, dans la poche de celui qui collabore avec nous. Et ça, si on arrivait à rendre de manière claire, je sais pas, une prime non taxable de 10 000 euros, de 5 000, de 15 000, de ce qu'on veut.
C'est annuel. Prime Macron tous les ans, quoi.
Ouais, une espèce de prime, voilà, qui pas imposée, mais presque. C'est ça dont on a besoin. C'est quelque chose de simple. Dividende salarié, quand 90% des PME, ils prennent 10 000 euros de, ils vont sortir 10 000 euros de bénéfices nets, ou 20 000 euros. Ça n'a aucun sens. Enfin, sur ces PME-là, ça n'a aucun sens. Sur les grands groupes, c'est son sujet. Je peux l'entendre. Mais si on arrivait à permettre de donner de manière claire, non chargée, non taxée, une prime qui permet de récompenser, nos salariés, je pense que ça serait la voie la plus simple et efficace.
Il va falloir nous faire un petit sondage, François-Mickey Marty, pour savoir ce qu'en pensent les dirigeants d'entreprise de ce dividende salarié. Parce que le MEDEF est contre, le Métis dit bof.
Et contre aussi.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas eu d'ailleurs, en tant que tel, sur l'idée en tant que tel, et sa labellisation. Je crois que le terme est aussi important que que ça cache derrière. Dividende salarié laisse entendre qu'en effet, il y a une sorte, tout d'un coup, les salariés entrent dans le dividende.
C'est un artifice.
Tout complet. Voilà. Mais l'idée est intéressante, l'idée intéressante en soi, parce qu'elle peut faire apparaître l'idée d'une forme de justice.
C'est une idée politique, Emmanuel. C'est une idée politique, le dividende salarié.
C'est une idée qui, effectivement, n'est pas inintéressante, qui est compliquée, mais qui est quand même compliquée à... C'est une idée politique, oui et non, parce qu'une idée, une bonne idée politique, c'est une idée qui est percutante, qui est simple à comprendre. Il faut quand même reconnaître que pas grand monde a compris.
On comprend qu'on va prendre de l'argent aux actionnaires.
L'idée, c'est quand même de donner plus à ses salariés. C'est quand même le but.
Ouais.
Si le but, c'est ça, il faut trouver une méthode simple pour le faire.
Merci à tous les trois d'être venus débattre avec nous.